BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. Une heure H, évidemment, on reviendra sur l'hommage qu'on est en train de rendre au président Jacques Chirac à l'église Saint-Sulpice. Et puis, on en parlera aussi sur le plan politique. J'en parlerai avec Julien Aubert. Il est député Les Républicains, candidat à la succession, justement, de la présidence des Républicains. Il sera avec nous. Lui, celui qui a été le copain de promo d'Emmanuel Macron, il nous dira qu'est-ce que représente pour lui Jacques Chirac. On en parlera aussi avec le politologue Stéphane Rosès. Est-ce qu'il a été arrêté? Formateur. Pourquoi autant d'émotions autour de Jacques Chirac? Et puis on en parlera aussi dans un instant avec Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, qui est déjà à mes côtés. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on regardera, on parle beaucoup de, un peu de l'immobilisme de Jacques Chirac lorsqu'il a été président de la République. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'a pas conduit les réformes nécessaires? Il a fait une réforme, la réforme des retraites. Ça sera l'occasion aussi de faire le point sur la réforme des retraites aujourd'hui et sur le budget. Mais pour l'instant, justement, retour de l'actu avec Thomas Asportas. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et avant de démarrer notre journal de économie. Bien sûr, un mot de la journée de deuil national en mémoire de Jacques Chirac. La journée a démarré, vous l'avez vu ce matin, avec les honneurs militaires rendus aux Invalides. Une cérémonie officielle va maintenant se dérouler à l'église Saint-Sulpice en présence d'Emmanuel Macron, des anciens présidents de la République française et de nombreux chefs d'État étrangers. Jacques Chirac sera ensuite inhumé dans l'après-midi au cimetière du Montparnasse. Une minute de silence sera respectée à 15h dans les écoles et les administrations publiques. Retour à l'actualité économique du jour, avec d'abord le budget 2020 de la Sécurité sociale, présenté aujourd'hui par l'exécutif, et les chiffres ne vont pas être bons, avec 5,4 milliards de déficit attendu pour 2019 et 5,1 milliards l'année prochaine. On est donc très loin du retour à l'équilibre promis pour cette année, qui n'est maintenant envisagé qu'à partir de 2023. Mais les mesures gilets jaunes, comme les heures sup défiscalisées ou encore l'annulation de la hausse de la CSG pour une partie des retraités, mais aussi la dégradation de la conjoncture, expliquent pour le gouvernement que les comptes de la Sécu repassent finalement nettement dans le rouge. À un mois maintenant du Brexit, le ministre britannique des Finances, Sajid Javid, ne relâche pas la pression et affirme que le Royaume-Uni pourra bel et bien juridiquement quitter l'Union européenne le 31 octobre, malgré la loi votée par le Parlement obligeant un report du Brexit en cas de non-accord. Le ministre des Finances britannique répond que le gouvernement travaille très dur pour parvenir à un accord d'ici au 31 octobre, mais que s'il n'y parvient pas, les Britanniques ne peuvent pas avoir davantage d'hésitation et de retard et partiront sans accord le 31 octobre. On a par ailleurs eu la confirmation ce matin que l'économie britannique s'est contractée au deuxième trimestre de 0,2%. C'est une journée importante pour l'Italie qui doit annoncer aujourd'hui ses prévisions macroéconomiques pour 2020 et le nouvel gouvernement de Giuseppe Conte ne devrait pas aller au clash cette fois-ci avec Bruxelles. Le déficit 2020 devrait tourner autour de 2,1-2,2%. Comme attendu par la Commission européenne. Et la croissance devrait avoisiner les 0,5 points de PIB. En attendant, les chiffres du chômage en zone euro sont tombés dans la matinée. Ils sont bons puisque le chômage en zone euro est au plus bas depuis 11 ans, à 7,4%, notamment en Italie où le chômage a reculé à 9,5 points. C'est son niveau le plus bas depuis novembre 2011. Et puis en Allemagne, le taux de chômage est toujours aussi bas, à 5%. Et puis en Chine, il y a semble-t-il du mieux aussi du côté de l'industrie, puisque d'après les derniers PMI, la croissance du secteur manufacturier a atteint en septembre son plus haut niveau depuis février 2018. Le Bureau national des statistiques a lui aussi constaté un rebond de l'industrie en septembre, mais elle reste quand même en zone de contraction d'après cet indice. Dans l'actualité des entreprises, EDF a dévoilé ce matin le calendrier précis de fermeture de la plus vieille centrale nucléaire du pays, Fessenheim. Ce sera le 22 février 2020 pour le premier réacteur et le 30 juin 2020 pour le second. EDF recevra au moins 400 millions d'euros pour la fermeture anticipée de Fessenheim. L'audit sur la filière nucléaire française sera remis à Bruno Le Maire le 31 octobre. Et puis pour finir, en Allemagne, c'est l'ouverture aujourd'hui du premier procès des consommateurs contre Volkswagen dans l'affaire du Dieselgate, 4 ans après le début du scandale. 450 000 clients portent plainte ensemble contre le groupe allemand. Le Dieselgate a déjà coûté 30 milliards d'euros à Volkswagen. BFM Business. Il est midi 4, on file sur les marchés à la mi-journée qui sont légèrement dans le vert. On gagne 0,23% à 5 653 points. L'euro-dollar, quant à lui, cède un tout petit peu de terrain. On abandonne 0,15%. 1 euro s'échange pour 1,0925 $.
Merci Thomas. On vous retrouve bien sûr à 12h30 dans un instant. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter de tout ces chiffres qui filent, la dette, les suppressions de postes? On voit ça tout de suite avec Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Denis Ferrand, rebonjour.
Rebonjour.
Merci d'être là, donc directeur général de l'Institut Rexecode. On va revenir sur le budget, les chiffres, la retraite. Aussi, on voit qu'il y a quand même pas mal d'inquiétudes alors qu'on est en train de se mettre en place la réforme des retraites. Normalement, le point de départ, c'est un équilibre parfait de l'ensemble du système. On voit avec les dérapages annoncés aujourd'hui qu'on est loin d'un équilibre. Mais peut-être d'abord un mot sur Jacques Chirac, 12 ans président. Qu'est-ce que vous en retenez, sans compter évidemment lorsqu'il était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing? Lorsqu'on parle du chiracisme, ça veut dire immobilisme. Est-ce que c'est vrai en termes économiques? On va rester sur ce terrain-là, bien sûr.
Alors, immobilisme, peut-être pas. Il ne faut pas oublier. Effectivement, on pense beaucoup à Chirac président, mais n'oublions pas Chirac, avant même d'être Premier ministre, était un des acteurs des accords de Grenelle de 1968. Or, là, c'était quand même une période, non pas d'immobilisme, mais où des solutions avaient été apportées à une crise importante. Donc, il faut porter crédit de cette période. Après, sur la partie de présidence, effectivement, vous avez 12 années de présidence, mais 7 d'exercice effectif du pouvoir d'un point de vue économique, puisqu'il y a eu les 5 années de cohabitation avec Lionel Jospin, pendant lesquelles ont été adoptées notamment les 35 heures. Et ensuite, quand on voit ce qui a été mis en place par le gouvernement, qui était un peu de la même sensibilité que le président Chirac, ce que l'on en retient, c'est le recul qui était intervenu malheureusement en 1995. Rappelons-nous les tensions qui avaient été exercées à la suite de l'annonce de réformes importantes sur les retraites. Et puis, quand même, un premier pas qui avait été franchi sur les retraites, c'était la réforme de 2003.
De François Fillon, en l'occurrence, puisqu'on se souvient de ses tribunes dans Le Monde où il avait dit Chirac m'a tué, mais c'est moi qui... j'ai quand même fait la seule réforme, en l'occurrence, de la présidence de Jacques Chirac. Sur les grands équilibres macroéconomiques, sur la réduction du déficit, sur l'endettement, il y a quand même aussi, lorsque Thierry Breton était ministre de l'économie et des finances, il le rappelle souvent, une réduction quand même très très forte de la dette. Ça a été un point important.
La dette avait reculé de manière très substantielle, c'était en 2006.
Oui,
tout à fait. Avec une opération, rappelez-vous, à cette époque, qui était une opération qu'on avait un peu appelée de cavalerie, à savoir qu'une très forte réduction de la trésorerie de l'État était intervenue juste avant la fin de l'année, et puis ensuite la trésorerie avait été un petit peu remontée. Donc il y avait eu aussi un peu de toilettage, mais c'est vrai que c'était une période, 2006, c'était aussi l'année où était sorti le rapport Pébrot, alertant sur le risque d'avoir un dérapage massif de la dette qui allait nous priver des marges de manœuvre. Le dérapage est intervenu, le dérapage de cette dette, celle-ci n'a fait que croître et embellir, et pour autant, la charge de la dette se retrouve à un niveau inférieur aujourd'hui à ce qu'il était en 2006, quand bien même la dette a cru et embelli, c'est la baisse des taux d'intérêt.
Évidemment, c'est les taux bas. Justement, ça fait le lien, je vous remercie, Denis Ferrand, on va parler des deux. Comme quoi, ça se répète quand même, parce que de quoi on va parler là? Du budget, déficit, l'endettement et des retraites. Donc c'est exactement la même chose. On reparle toujours des mêmes sujets en France. C'est un peu ce qui devient un peu lassant. On dit un mot quand même du budget. Est-ce que pour vous, les chiffres sont inquiétants? Parce qu'il y a quand même des dérapages de tout ce qui devait être soit remis à l'équilibre, soit en progression, en réduction, etc. On a l'impression qu'on a un peu ouvert les vannes.
Oui, bien, c'est vrai qu'il y a le message qui est très clair quand il est résumé par c'est un budget politique.
Oui.
Donc pas
et du pouvoir d'achat des baisses d'impôts, par l'endettement.
Exactement, financé par l'endettement, avec un point qui a été quand même très bien souligné par le Haut Conseil des Finances Publiques, qui était la question de la cohérence que l'on peut avoir entre un projet de loi de finances et des objectifs qui étaient votés il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au moment de la loi de programmation des finances publiques, une programmation sur plusieurs années, qui parlait d'une réduction du déficit, non pas conjoncturel, mais de ce que l'on appelle le déficit structurel, donc ce qui tient au pilotage des dépenses et des recettes. Cet objectif de réduction du déficit structurel est aujourd'hui totalement laissé de côté.
Oui, puisque
On a en fait une stabilité de ce déficit structurel. Alors que l'on devait faire des efforts de réduction à hauteur de 0,3 points chaque année, on est en deçà, et on est même en deçà de ce qu'attendent de nous les partenaires européens dans le cadre du pacte de stabilité de croissance qui avait été voté il y a de cela déjà quelques années.
Oui. Ce matin, je recevais Valérie Rabault, donc la présidente du groupe socialiste maintenant à l'Assemblée nationale, mais qui est une des meilleures expertes, en l'occurrence, budgétaire, et elle disait pour elle c'est un budget qui a plein de choses trappes, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde dans les détails, en fait, on se rend compte que c'est des jeux de bonneteau, donc aucune économie n'est faite, il y a un vrai problème de logique budgétaire, et qu'il n'y a aucune logique pour relancer la croissance d'investissement dans ce budget. Est-ce que vous pourriez être d'accord avec elle?
C'est vrai que quand on regarde aussi sur la dépense, sur le volet dépense, parce qu'on a beaucoup parlé du volet impôt, avec la baisse de l'impôt sur le revenu,
signaler et souligner.
Oui, tout à fait. De toute façon, ce sont les points les plus massifs en termes de montant. Mais quand on regarde ce qui se passe sur la dépense, c'est assez surprenant, il me semble, de voir que quand il y a des efforts de maîtrise sur la dépense, au total, ils ne dépendent pas tellement de choix de l'État. Ils vont en dépendre, soit de l'assurance chômage, l'UNEDIC est un régime qui est paritaire, même si l'État est très interventionniste. Ces efforts de dépense, ils vont être associés à la réduction des charges d'intérêt. En 2020, vous aurez un ralentissement des dépenses publiques qui sera associé au fait que les entreprises, les mairies vont moins dépenser. parce qu'on est dans le cycle électoral communal et effectivement on va retrouver moins d'investissement public en 2020 parce qu'on est dans les circonstances conjoncturelles. Et puis, autre élément de dépense, et là c'est ce que l'on aura certainement dans le projet de loi de finances de sécurité sociale, c'est une réduction de dépenses par la maîtrise notamment des dépenses sur le médicament, qui est le principal élément mis à contribution pour maîtriser la dépense des assurances sociales.
Mais c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement il y a un vrai problème d'industrie du médicament en France, de manque de pénurie de médicaments.
Oui, tout
donc
à fait.
C'est un peu contradictoire.
On commence à toucher effectivement du doigt les conséquences de ce que veut dire plusieurs années d'un pilotage qui a peu près le même. Le nouveau monde ressemble quand même assez furieusement à l'ancien monde quand il s'agit.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que l'ancien monde n'est pas en train de prendre sa revanche sur le nouveau monde? C'est-à-dire que là, moi, j'ai l'impression que c'est des budgets qu'aurait pu faire François Hollande, qu'aurait pu faire, les anciens présidents.
François Hollande, au début de son quinquennat, n'était pas dans le sens de la baisse d'impôts sur le revenu.
Oui, mais fin de son quinquennat, on voit quand même qu'il a fait notamment vis-à-vis des entreprises.
Oui, tout à fait.
Ça va faire le lien de différents. Il y a une espèce de bisbille entre le gouvernement et le MEDEF qui avait émis un communiqué assez dur, et puis je recevais Patrick Martin, le numéro 2 du MEDEF, qui dit que c'est un budget qui est très inquiétant pour les entreprises, parce qu'en fait il n'y a pas de baisse d'impôts, comme ils le disent, mais au contraire une hausse d'impôts net évidemment pour les entreprises, et que c'est pas un budget là encore qui favorise la croissance.
Oui, avec une menace.
Est-ce qu'ils ont de quoi s'inquiéter?
Il y a aussi la question qui va se poser au moment du débat parlementaire. On sait que chaque année revient par exemple sur le tapis la question du crédit impôt recherche, et là aussi la question peut être ouverte.
Elle est plus ou moins refermée pour l'instant, c'est-à-dire qu'on y touche mais à la marge.
Oui, on y touche à la marge, mais en fait ce sont les signaux, et surtout ce sont les signaux par rapport à des séquences qui étaient bien installées. Par exemple, la séquence sur la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, on voit que cette marche qui est adoptée va être un peu plus lente, notamment pour les grandes entreprises, par rapport à ce qui était annoncé, Urbi et Orbi, en 2017. Donc, c'est-à-dire que la baisse d'impôt sur les sociétés, le taux devait passer de 33 à 30% pour 2020, eh bien, cette baisse, elle sera reportée, elle sera décalée d'un point, elle sera de 33 à 31. Et en fait, c'est surtout la visibilité. C'est-à-dire que quand il y a des engagements qui sont pris sur plusieurs années, on le voit sur beaucoup d'éléments de pilotage des finances publiques, ce sont des engagements sur plusieurs années, eh bien, on voit que ceux-ci, ils servent un peu de variable d'ajustement. On va décaler un petit peu le calendrier, on va faire un petit peu de tuyauterie pour faire en sorte que quelques dépenses que l'on n'avait pas prévu de faire, quelques cadeaux fiscaux que l'on n'a pas prévu de faire, eh bien, seront financés, et on se tourne plutôt du côté des entreprises, plutôt des grandes entreprises, pour faire les fins de mois.
Juste un point, c'était un député qui connaît bien ces questions-là, qui me disait, en fait, vous savez, sur cette fameuse niche senior, qui est dans le budget, alors que le président l'a retiré, le président Macron, l'aller-retour. Et en fait, c'est parce qu'ils en ont besoin, sinon le budget n'est pas bouclé, il manque 300 millions d'euros, et à ce moment-là, on tombe de nouveau sous les fourches codines de Bruxelles.
Oui.
Oui, c'est vrai. Oui.
C'est un peu l'impression que cela donne. En tout cas, c'est là aussi qu'on voit bien que ça donne un peu de la latitude au débat parlementaire qui va se faire sur le budget. Parce que ces 300 millions qui sont aujourd'hui manquants, il faudra bien les trouver quelque part, et c'est un peu une variable d'ajustement qui se fera au moment du débat.
Oui. Là aussi où ça dérape, ça devait être à l'équilibre. Finalement, c'est pas l'équilibre, c'est le déficit de la sécurité sociale, notamment la partie vieillesse. C'est ça qui est inquiétant. L'année dernière, on était tout juste pour la première fois cocorico, ça fait 5 ans que c'est pas à l'équilibre, etc. Là, hop, nouveau déséquilibre, 5,4 milliards. C'est inquiétant, et inquiétant notamment pour la réforme des retraites, expliquez-nous.
En tout cas, ce qui est inquiétant, c'est que pour justement acter le passage à un nouveau système de retraite tel qu'appelé de ses voeux par le président Macron, l'idée était d'arriver sur un système qui était à l'équilibre d'emblée. Donc là, on voit que l'échéance de l'équilibre est reportée. Pourquoi l'échéance de l'équilibre est reportée? Tout simplement parce que ce sont les éléments de réponse au mouvement des Gilets jaunes qui sont passés par là.
Oui.
C'est la CSG, la hausse de la CSG qui avait été adoptée, sur laquelle il y a eu un retour en arrière. C'est aussi la désindexation des pensions qui était un outil de financement. Et on a eu une réindexation. Donc en fait, ce sont ces deux éléments-là qui tiennent à la masse des dépenses, sur lesquels il y a eu un retour en arrière. À la masse des dépenses pour ce qui est les pensions, et évidemment aux recettes pour ce qui concerne la CSG. Donc il y a eu du retour en arrière, et là aussi on voit la difficulté d'avoir un pilotage assumé sur plusieurs exercices. C'est là qu'il y a un vrai élément de dérapage. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, on était revenu quasiment à l'équilibre. Mais comment est-on revenu à l'équilibre? C'est parce que l'on a eu la montée en puissance très régulière des mesures d'allongement des mesures de durée de cotisation de plus en plus important. Ce qui est assez frappant sur la période récente, c'est l'augmentation du taux d'activité des seniors, qui est une conséquence des différentes réformes de retraite qui avaient été adoptées.
Heureusement qu'on est passé à 62 ans, cela dit.
Voilà. Mais c'est ça qui a permis petit à petit de réduire. Alors, on n'est pas à l'équilibre, mais c'est ça qui a permis de se rapprocher de l'équilibre. Et aujourd'hui, poser la question des retraites en laissant de côté la question de la durée de cotisation, qui est la variable la plus efficace pour permettre un rétablissement, eh bien, on risque de ne pas atteindre l'objectif, a priori, d'avoir un équilibre budgétaire.
Toute dernière question, Denis Ferrand, mais est-ce que le gouvernement, quelque part, il a raison de faire un budget politique, de pouvoir d'achat, de baisse d'impôts, en laissant filer la dette, l'endettement, avec ses taux bas? Est-ce que vous dites, il a raison, c'est parce que c'est la bonne stratégie à avoir?
Ouais, ce qui est frappant quand même, c'est que quand on dit, Dieu sait qu'il y a beaucoup d'économistes qui se sont prononcés sur l'idée qu'on pouvait laisser passer l'endettement, laisser filer l'endettement, parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont propices. Laisser filer l'endettement, mais pour faire de l'investissement. Aujourd'hui, quels sont les leviers, quelles sont l'identification de projets d'investissement qui apparaissent dans le budget? Il n'y en a pas véritablement. Des mesures de pouvoir d'achat ne sont pas des mesures qui préparent l'avenir d'une certaine manière, parce que l'on fait un effort d'investissement, parce qu'on assumerait une dette un petit peu plus importante. Oui. C'est comme toujours, il faut mettre en face de la dette les actifs que l'on constitue. Et là, il n'y en a pas beaucoup.
Eh oui, et là, c'est là où ça coince. Merci beaucoup, Denis Ferrand, donc directeur général de Rexeco. Dans un instant, on parlera de Chirac, encore une fois. Vous me direz, donc le match est toujours en cours à l'église Saint-Sulpice. On parlera de Chirac, le réformateur empêché, avec Stéphane Rosès, le politologue Stéphane Rosès. À tout de suite.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'Arrache avec Stéphane Rosès. Stéphane, bonjour.
Bonjour, Edwige.
Politologue, évidemment, président de la société de conseil CAP et puis professeur HEC à Sciences Po. Stéphane Rosès, si je vous ai demandé d'être là, c'est évidemment pour parler de Jacques Chirac. On a vu l'émotion qui a saisi les Français, beaucoup de Français. Est-ce que, là encore, vous avez été étonné par ce mouvement populaire?
Je m'attendais à une émotion, comme souvent quand il y a eu un président qui a tellement marqué. J'étais surpris par la vivacité et l'ampleur, de sorte que l'hommage national renseigne de ce qu'a été le président Chirac, mais aussi du moment actuel. C'est-à-dire qu'on revoit toujours le passé, l'opinion revoit le passé, à partir du présent. Et donc, ça montre le besoin de communion nationale. Le président Macron a eu raison de dire que Jacques Chirac, à la fois, ressemblait et rassemblait les Français. Et évidemment, après le moment des Gilets jaunes, qui a divisé le pays, au moment des inquiétudes de la France dans la mondialisation, Jacques Chirac apparaît comme une figure à la fois paternelle, proche, et au travers notamment de son refus de la guerre en Irak, mais aussi des questions écologiques, comme ayant projeté au fond la France à l'extérieur, de sorte que, voilà, c'est devenu une figure consensuelle. Ça n'avait pas toujours été le cas.
Non, loin s'en faut. Alors justement, si je dis ça, c'est que vous avez travaillé pour Jacques Chirac et Claude Chirac, hein, 1994 à 2007, donc les périodes les plus difficiles, entre guillemets, où il s'est passé beaucoup d'événements. 94, c'était juste avant la grève de 95. C'était quelqu'un qui, vous avez dit sur Twitter, c'était un réformateur empêché. En quoi c'était un réformateur empêché?
Oui, je précise seulement que je n'ai travaillé avec Claude Chirac que plus tard, mais dès la présidentielle de 94-95,
oui, elle aurait été un peu jeune.
Les équipes Saint-Cernin, Stéphanini, ensuite Villepin. Parce qu'au fond, je reprenais, durant sa longue carrière, Jacques Chirac a connu 9 périodes où idéologiquement, il a pu varier. On a dit qu'il était pragmatique sur sa façon de faire, pas sa façon d'être et les valeurs. Mais en quoi ça a été un réformateur? Mais souvenons-nous d'une période un peu plus ancienne, c'est-à-dire la période 86-88. Il veut faire les réformes, les privatisations, et quand arrive Malik Oussekine, il s'arrête tout de suite. Novembre-décembre 95, ça dure 2 mois, c'est très long, et quand décidément il comprend que l'opinion est derrière le mouvement social, il arrête. Donc au fond, je dirais, quand il voit une fenêtre, il réforme. Par contre, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, il pense que la France n'avance pas s'il n'y a pas un minimum de consensus. Et dès dès qu'il sent qu'il y a risque de fragilité, de fracture, il arrête. Et avec son entourage, je pense notamment à Alain Juppé à l'époque, où d'ailleurs il y a toujours des juppéistes, on le voit avec Emmanuel Macron, face à ceux qui pensent que le gouvernement des choses fait le gouvernement des hommes, en politique, lui dit non, il ne faut pas rompre ce qu'est la communauté nationale. Alors, on retrouve un peu ces débats aujourd'hui avec l'entourage d'Emmanuel Macron.
Voilà, c'est la question que je vais vous poser, c'est que, en fait, on dit, c'est un peu en creux finalement ce qui manque à Emmanuel Macron, ce qui a manqué à Emmanuel Macron, ou ce qui manque encore à Emmanuel Macron.
Oui, mais il y a une sorte au fond de malheur français. Si on pense la séquence novembre-décembre 95 et la séquence Gilets jaunes.
Oui.
Voilà. On a des présidents qui se font élire, Jacques Chirac sur la fracture sociale, Emmanuel Macron disant « je veux restaurer la souveraineté de la nation ». Ils se font élire par la nation avec l'idée pour la nation qu'elle va redevenir maître de son destin. Et le sommet de l'État et l'environnement européen fait que très vite, au fond, c'est plutôt l'idée qui prévaut, c'est plutôt « il faut faire des réformes parce ce qu'il faut le faire, sinon on ne va pas survivre. » Et là, il y a une légère inversion et donc, du coup, le pays répond violemment. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait repéré en disant à Bucarest que les Français refusaient les réformes à imposer. Au fond, on s'aperçoit que sur toute la longue période, il y a une façon d'être de notre pays qui attend d'être emmené pour conquérir son avenir, et puis des modalités de réforme, souvent faites par des économistes, des gens très brillants, des techniciens, et là, c'est un peu ce que dit en ce moment Édouard Philippe, c'est la France est une voiture qu'il faut réparer, vous me la confiez, et je vais réparer la voiture. Sauf que les Français, eux, pour réparer la voiture, il faut d'abord qu'on leur dise où on va avec la voiture. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment une constante dans la dernière période entre les modalités d'élection des présidents, Jacques Chirac sur la fracture sociale, et ensuite, alors, pour le plan Juppé, c'est Trichet qui lui avait dit que le plan Juppé n'était pas assez corsé. Moi, j'y avais travaillé en amont, confidentiellement. Il fallait renforcer ça parce que les marchés financiers se diraient que la France ne voulait pas aller vraiment à l'euro et qu'il fallait donner des signes à l'extérieur véritablement d'une volonté de réforme.
Là, est-ce que vous diriez que, alors qu'on parle beaucoup du budget, évidemment, la réforme des retraites, c'est les grosses actualités économiques et politiques, est-ce que vous diriez que, il revient un peu sur son nouveau monde, il arrête un peu les réformes sans le dire, parce qu'il y a une élection présidentielle à venir, et finalement, ça vient assez rapidement, Emmanuel Macron?
Je pense
que vous avez vu le budget 2020, il n'y a plus de réforme, il n'y a plus d'économie.
Intéressant. Ouais. Avant, je crois que dorénavant, nécessité fait loi pour le président qui a dit à son entourage qu'il avait pris un TGV sur la tête avec les
Gilets jaunes. Je me suis servi souvent cette expression.
Et au fond, du coup, alors qu'au plan international, il disait que les peuples régressaient au caractère primitif de leur imaginaire, maintenant il acte ça en France. C'est-à-dire qu'il se passe aujourd'hui un moment où les peuples font une pression terrible sur leurs gouvernants et donc à la fois pour justifier sa présence, dit-il, il faut continuer à avancer, sinon on ne sait pas pourquoi, et à la fois, il est très prudent et il peut même être en débat avec son entourage sur jusqu'où aller, selon quelle modalité. Jacques Chirac avait déjà en son temps ce débat avec son entourage.
D'accord, mais est-ce que... on va pas directement, Stéphane Rosette, est-ce que c'est la fin des réformes, quoi? Ou alors il y a la réforme des retraites et après basta. Vous me direz, c'est déjà énorme. Elle va être repoussée après les municipales.
Ce sont des réformes qui avancent beaucoup plus prudemment, comme ce qu'a été la dernière période de Jacques Chirac.
Lorsqu'on voit l'aller-retour, alors on en parle souvent, mais je trouve que c'est assez symptomatique. L'aller-retour qu'il y a eu sur la mesure, savoir s'il fallait supprimer les exonérations pour les seniors, pour l'aide à domicile. Qu'est-ce qui a tranché? C'est Emmanuel Macron de New York, où il était pour le sommet pour le climat. Ça veut dire qu'il y a il y a trop de techniciens, il n'y a pas assez de politique au sein de ce gouvernement? Parce que maintenant, tout le monde se renvoie la patate chaude.
Ce qui prévaut, effectivement, au sein du gouvernement, c'est un logiciel qu'on pourrait appeler néo-jupéiste. Néo-jupéiste, bon, pas forcément néolibéral, mais disons dont la ligne de pente est il faut trouver les moyens de faire en sorte de retrouver des marges de manœuvre budgétaires, là où, au fond, le plus politique au sein de l'exécutif, paradoxalement, demeure Emmanuel Macron, à la fois par l'expérience récente, et puis parce qu'il est cultivé. Il connaît l'histoire de France, il a en tête, voilà, il connaît l'histoire de France.
Ça, et ça fera le lien avec notre invité suivant dans le RH, Julien Aubert, qui est candidat à la présidence des Républicains, parce qu'il le dit, lui, parce qu'il connaît bien Emmanuel Macron, il était à l'ENA avec lui. C'est, en fait, est-ce que ça s'apprend, le contact avec les Français? Est-ce que, parce que Jacques Chirac, on voit sa popularité, c'est sûr, quels que soient les milieux, bon, bah, il était très très proche des Français, c'est ce qui fait l'émotion d'aujourd'hui. Emmanuel Macron, il a plein d'autres qualités, il est charismatique, christique, mais il n'est pas très proche des Français, parce que ce n'est pas dans son caractère.
Ça ne s'apprend pas, c'est une histoire familiale, une histoire personnelle, des expériences. Sur Emmanuel Macron, c'est un cas quand même assez troublant, c'est que il aime le contact direct avec les gens. Par exemple, je me souviens quand il était à Bercy, il allait au contact de la CGT dans les centrales. Il aime beaucoup la discussion directe.
Ça se voit dans le grand débat où il était excellent.
Il peut commettre des erreurs parce que, au fond, souvent, il est dans le en même temps. Quand il dit à un chômeur de traverser la rue, c'est pas méprisant, contrairement à ce que pensent les Français catholiques. C'est seulement la conception de rigueur protestante que chacun a en soit un potentiel. Donc, son en même temps fait que par moment, il fait des embardées, alors même qu'intellectuellement, il sait bien ce qu'est la culture française, même si à d'autres moments, il dit à tort qu'il n'y a pas de culture française.
Merci beaucoup, Stéphane Rosès, d'avoir été avec nous, politologue, président de CAP. Dans un instant, mais justement, lui, il est candidat à la présidence des Républicains. C'est le député du Vaucluse, Julien Aubert. Il est membre de la commission des finances. Il est justement très focalisé sur la transition énergétique. Il faisait partie de la promotion Macron. Il va nous expliquer justement comment il trouve son ex-copain de Chambray. À tout de suite.
BFM Business, midi, leur H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Mon invité, je vous le disais, c'est Julien Aubert. Julien Aubert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, donc député du Vaucluse. Et vous publiez Emmanuel, le faux prophète. Emmanuel, votre copain de l'ENA. On va voir tout ça dans un instant. Mais pour l'instant, rappel des titres avec Thomas Asportas.
Et un mot, bien sûr, de la journée de deuil national en mémoire de Jacques Chirac. Une cérémonie officielle a démarré à l'église Saint-Sulpice en présence d'Emmanuel Macron et des anciens présidents de la République. Jacques Chirac sera ensuite inhumé dans l'après-midi au cimetière du Montparnasse. Une minute de silence sera respectée à 15h dans les écoles et les administrations publiques. Dans l'actualité économique du jour, le budget 2020 de la Sécurité sociale, ça y est, a été dévoilé par l'exécutif et les chiffres ne sont pas bons, hein, avec 5,4 milliards de déficit attendu pour 2019 et 5,1 milliards l'année prochaine. On est donc très loin du retour à l'équilibre promis pour cette année. Mais les mesures de pouvoir d'achat liées aux gilets jaunes et la dégradation de la conjoncture nous expliquent le gouvernement que le compte de la Sécu repasse nettement dans le rouge. Les chiffres du chômage en zone euro sont tombés dans la matinée. Ils sont bons puisque le chômage en zone euro est au plus bas depuis 11 ans, à 7,4%. Le chômage a reculé en Italie, notamment à son niveau le plus bas depuis novembre 2011. Et en Allemagne, là, le taux de chômage est toujours aussi bas, à 5%. Dans l'actualité des entreprises, EDF a dévoilé ce matin le calendrier précis de fermeture de la plus vieille centrale nucléaire du pays, Fessenheim. Ce sera le 22 février 2020 pour le premier réacteur et le 30 juin 2020 pour le second. EDF recevra au moins 400 millions d'euros pour la fermeture anticipée de Fessenheim. Et puis pour finir, en Allemagne, c'est l'ouverture aujourd'hui du premier procès des consommateurs contre Volkswagen dans l'affaire du Dieselgate, 4 ans après le début du scandale. 450 000 clients portent plainte ensemble contre le groupe allemand. BFM Business, il est bientôt midi 34, je vous redonne le CAC. À la mi-journée, le CAC qui est à l'équilibre à 5643 points. L'euro-dollar, quant à lui, recule un tout petit peu, on abandonne 0,18%. 1 euro s'échange pour 1,0923.
Merci Thomas. Dans un instant, on verra qu'est-ce qui reste du chiracisme, qu'est-ce qui reste du gaullisme. On verra ça avec Julien Aubert, député du Vaucluse et aussi membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. À tout de suite.
Ce week-end sur BFM Business, découvrez les gagnants de Accélérateur BFM, le premier concours de start-up dédié aux entrepreneurs de banlieue et des territoires. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement financier, de coaching et de networking grâce à Dominique Romano, président de la société d'investissement Gibor, et à Moussa Camara, présidente de l'association Les Déterminés. La finale de Accélérateur BFM, présentée par Aurélie Planex, samedi à 20h et dimanche à midi sur BFM Business. Les Sophos Labs bloquent plus de 400 000 nouvelles cybermenaces chaque jour. Êtes-vous sûr d'être bien protégé? Grâce à l'intelligence artificielle, Sophos offre une cybersécurité efficace contre toutes les cyberattaques. Sophos.
Bonjour, c'est Laurent Guez du Parisien. Savez-vous que l'Île-de-France est un terroir? Dans le nouveau hors-série Manger bon et local du Parisien, nous avons déniché pour vous les meilleurs commerçants, restaurants et producteurs de la région. Découvrez les recettes 100% locales des chefs comme Yannick Aleno ou Amandine Chéniaud. Manger bon et local en Île-de-France, le premier numéro de la collection Balade gourmande du Parisien à déguster dès aujourd'hui.
La FIAC est une foire. La FIAC, c'est 200 galeries internationales d'art moderne et contemporain et du design rassemblées au Grand Palais, originaires de 29 pays et 70 villes. La FIAC, c'est aussi FIAC Project, des sculptures, des installations au Petit Palais et sur l'avenue Winston Churchill. La FIAC est hors les murs, place Vendôme, au Jardin des Tuileries, au Musée de la Croix et place de la Concorde. La FIAC est aussi un festival avec des performances, des films et des conversations. La FIAC est à Paris du 17 au 20 octobre avec BFM Business.
Bonjour, je suis Olivier, responsable technique chez Velux. Les gens s'imaginent souvent de gros travaux quand il faut remplacer d'anciennes fenêtres Velux. En réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Chez Velux, nos fenêtres ont toujours eu les mêmes dimensions. Résultat, le nouveau modèle s'insère facilement à la place de l'ancien. Pas besoin d'ouvrir le toit. En moyenne, ça prend souvent moins d'une journée avec un professionnel et vous êtes gagnant en confort, hiver comme été. Et si vous voulez vraiment changer votre quotidien, faites remplacer votre ancienne fenêtre par deux nouvelles fenêtres Velux. Ça va transformer complètement votre pièce et côté travaux, c'est pratiquement aussi simple.
Retrouvez toutes les solutions pour votre projet et profitez dès maintenant de notre offre sur velux.fr.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est un copain de promo d'Emmanuel Macron. Il est de la Cour des comptes comme Jacques Chirac et François Hollande. Il a même été à l'Élysée, conseiller à l'Élysée. Et puis il a créé les 4 des Bourbons avec les moins de 40 ans, avec notamment Gérald Darmanin. Julien Aubert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai envie de dire beau pédigré. Maintenant, faut que ça se transforme, hein, entre guillemets. Vous publiez Emmanuel, le faux prophète, aux éditions du Rocher. On va revenir sur l'attaque en règle que vous menez contre Emmanuel Macron. Juste un mot de politique. En l'occurrence, si vous êtes candidat à la présidence des Républicains, 12 et 13 octobre, le gaullisme, le chiracisme, ça vous dit quelque chose à vous ? Chiracisme.
Disons que le chiracisme a été à un moment donné un gaullisme entre 1974 et 1982-83. Mmh. C'est le Chirac que je préfère, moi. Le Chirac, effectivement, qui modernise l'UDR pour créer le RPR. Après, Chirac, à mon avis, était quelqu'un qui n'était pas un idéologue, qui faisait d'abord passer l'homme et la pratique avant les idées. Et donc, il a été libéral. Ensuite, il a été beaucoup plus consensuel. Et puis après, on a retrouvé aussi des fois un Chirac gaulliste plus tard, sur l'Irak, notamment.
Julien Aubert, en même temps, vous dites, vous êtes pour une droite forte, hein, très très forte. Même certains trouvent parfois trop forte. On y reviendra peut-être. Vous dites, il ne faut pas que ça soit l'arche de Noé de la droite. J'aime bien cette expression, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cela dit, Jacques Chirac, lui, il a créé l'UMP. Donc, vous dites non, il ne faut surtout pas aller vers le centre. On voit bien que c'est la divergence, hein, cruciale.
Oui, mais je pense que c'était une... D'abord, je pense que le modèle de l'UMP est mort. Il est mort à partir du moment où on avait créé ce parti pour faire 30% des voix et empêcher le Front National d'arriver au second tour d'une élection présidentielle. Donc, en 2017, on a eu l'inverse et on fait 8%. Et on fait 8% parce que, par faute de paresse, on a mis nos idées à l'arrière. En essayant de valoriser d'abord la machine électorale. Aujourd'hui, c'est plus une machine à gagner, c'est une machine à perdre. Voilà pourquoi je pense que le modèle de l'UMP est mort. Les centristes sont partis avec Emmanuel Macron, pour l'essentiel, et il faut donc...
Et une partie de la droite aussi.
Et une partie d'une droite, c'est ce que je dis dans le livre d'ailleurs, ouais. cette droite qui finalement place d'abord les impératifs économiques avant, je dirais, le politique, en disant que ça doit être du pragmatisme et éventuellement s'adapter aux contraintes de la mondialisation.
Oui, vous dites que le progressisme d'Emmanuel Macron n'est donc pas un progrès collectif mais individuel, teinté d'une vision largement économiste de la société.
Oui.
Ah, vous êtes sur une chaîne d'économie ici, alors l'économie ça a quand même du bon, non ?
Ah,
en plus, vous êtes membre de la commission des finances.
Évidemment, l'économie ça a du bon, mais vouloir plaquer un raisonnement économique à tout le fonctionnement de la société, eh bien, ça vous donne après des hôpitaux qui sont en train de mourir de leur belle mort, ça vous donne des services publics qui ont disparu dans les territoires ruraux. Moi je viens d'un petit village qui s'appelle Sceaux, dans le Vaucluse.
Cinquième circonscription du Vaucluse.
Voilà, donc plaquer, vous savez, le raisonnement financier appliqué à toute l'approche de l'humanité, c'est quelque chose qui finit par faire dépérir le lien humain. Vous en arrivez à plus connaître votre voisin et à avoir des relations contractuelles pour lui demander de jeter un coup d'œil sur votre maison, moyennant 30 euros par jour pendant vos vacances. Donc je ne suis pas certain que ce soit un modèle de société viable.
Les gilets jaunes étaient très très présents hein, dans votre circonscription, enfin dans le sud-est de la France. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que ça s'est éteint en tous les cas, voilà, ça n'a plus la force que ça avait ce mouvement des gilets jaunes. Et qu'Emmanuel Macron, notamment par ce budget de pouvoir d'achat et ses baisses d'impôts massives, a réussi à surmonter ces crises.
Les symptômes ont disparu, mais la maladie est toujours là. La maladie, c'est d'abord une maladie du pouvoir d'achat, et deuxièmement, une volonté d'avoir un contrôle sur son destin. Pour moi, les gilets jaunes, c'est une crise de la souveraineté, c'est-à-dire dire, mais nous, finalement, nous sommes des oubliés politiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait une grande défiance à l'égard du politique et des oubliés de l'économie, c'est-à-dire que nous n'arrivons plus à accéder au modèle que vous nous vendez tous les jours dans les devantures des magasins ou sur les chaînes de télévision, et avec la volonté d'être reconnu pour son travail et pour son effort dans la société. Il y avait un problème de reconnaissance. Donc ce qui a été fait, ça a été de larguer quelque part quelques milliards d'euros pour éteindre la crise, mais on ne règle pas le problème structurel. Et le problème structurel, bah, c'est que vous avez des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui, à la fin du mois, après avoir payé leurs charges, ils ont 50 euros pour finir le mois.
Oui, mais
ça, c'est un problème structurel.
C'est que vous avez fait des études aussi après l'ENA, vous avez été aux États-Unis, enfin avant, après, donc avant. Vous connaissez bien cette culture plus internationale. C'est la mondialisation fait qu'on a besoin d'économie. On a besoin de moderniser notre économie, on a besoin de faire des économies de l'État. Vous voyez, c'est là où c'est contradictoire. Donc, de ce point de vue-là.
Mais la grande contradiction, chère madame, c'est que depuis 25 ans, où on explique aux gens qu'il faut faire des économies, nous n'arrêtons pas d'avoir des déficits.
Mais on n'en fait pas.
Oui, donc ça fait 25 ans qu'on a un discours sacrificiel disant on va supprimer des fonctionnaires, on va faire des économies et on fait l'inverse. Donc, peut-être qu'on devrait arrêter d'avoir cette vision uniquement économiste. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il supprimerait 47 fonctionnaires. Enfin, c'est ridicule. 47 fonctionnaires.
Oui, alors parce que on a besoin. Ça, c'est pas vous qu'on va le dire. Dans cette région, vous avez été quand même très frappé. Il y a besoin de plus de justice. Oui. Il y a besoin de plus d'hôpitaux. C'est pour ça que c'est difficile.
Mais la vision économique, elle consiste à dire, nous allons finalement fermer les centres qui sont les moins productifs, en oubliant qu'un service public, ça n'est pas rentable. Si un service public était rentable, on le privatiserait. Un commissariat, vous le fermez, vous ne pouvez pas jauger l'impact que ça va avoir sur la sécurité. Ouais. Donc c'est pour ça que aujourd'hui les fonctionnaires se sentent très mal à l'aise. Ils ont l'impression d'être finalement uniquement vécus comme des poids morts, des empêcheurs de comprimer le déficit. C'est ça. Et donc il faut redonner les lettres de noblesse à la fonction publique, redonner du sens, être beaucoup plus ferme aussi parfois sur des comportements qui se sont développés au sein de la fonction public, et effectivement tailler là où on aurait taillé. Vous savez, on a un nombre de strates de collectivités territoriales, peut-être qu'il faut revoir le statut.
Vous avez vu ce rapport à la Cour des comptes meurtrier sur la fusion des régions aussi censée faire des économies.
Mais ça ne produit aucune économie.
Et il n'y a aucune économie, au contraire. Normalement, enfin, vous êtes un responsable local, enfin, vous voyez, mais régional. Vous êtes aussi responsable, vous sortez de la Cour des comptes, vous pourriez faire des économies, en trouver, rationaliser peut-être.
Attendez, la Cour des comptes dit où est-ce qu'il faut les faire.
Ouais.
Rappelons quand même que c'est au gouvernement de faire les efforts. On ne peut pas demander aux gens de l'opposition.
C'est pas aux conseils régionaux et aux régions de le faire.
Quand j'étais vice-président des finances, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons fait des économies, plusieurs dizaines de millions d'euros sur le fonctionnement, et on a redressé, on a inversé le processus. Donc moi, quand j'étais aux affaires, oui, j'ai fait faire, pendant mes deux ans, des économies à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des économies, mais simplement, si demain, on veut revoir le mode de fonctionnement de l'État, ça veut dire supprimer les strates, et revoir le modèle de fonction publique, en considérant que l'emploi à vie devrait être consacré uniquement sur des emplois régaliens. Et pour l'avenir, recruter effectivement, comme dans le secteur privé, pour les secteurs qui ne sont pas régaliens.
Aujourd'hui, quand on est droite, quand on est républicain, quand on aspire à en prendre la présidence, mais en face de vous, vous avez donc Guillaume Larrivé et Christian Jacob, c'est quoi votre programme? Vous avez un programme économique? C'est quoi la ligne économique de la droite aujourd'hui? Enfin, de votre droite, parce qu'il y en a plusieurs.
Alors, deux choses. D'abord, moi, le cœur de mon programme, c'est un programme à l'égard des adhérents, parce qu'on veut être président du parti. Après, c'est vrai que je souhaite un changement de ligne. Moi, je plaide pour une droite qui soit libérale, mais pas néolibérale. On peut être libéral, c'est-à-dire baisser les charges sur les entrepreneurs, considérer qu'on doit aider nos entreprises, et en même temps considérer que la privatisation, la libre concurrence ou l'ouverture des frontières tous azimuts est systématique comme solution à tous les problèmes de la France, ça n'est pas forcément la bonne solution. Dire demain que vos concessions hydroélectriques, parce qu'elles seront gérées par des Finlandais, tout ira mieux, c'est faux. On n'a qu'à voir d'ailleurs ce qui s'est passé sur les concessions autoroutières. Dire qu'il faut vendre Aéroport de Paris, privatiser...
La droite en l'occurrence qui a privatisé
Non mais je sais, mais parce que la droite pendant 20 ans a vécu finalement ronronné sur son programme économique des années 80 sans voir que le monde avait changé. Il était très intelligent de dire qu'on privatisait en 1986 quand Mitterrand avait tout nationalisé. Aujourd'hui vous privatisez quoi? Nous le faisons d'ailleurs pour des raisons essentiellement budgétaires. Vous savez très bien que pour l'aéroport de Paris il s'agit d'avoir quelques milliards qui ne seront même pas utilisés d'ailleurs.
Oui, je voulais dire, on a très belles autoroutes, hein. Elles coûtent très cher,
oui,
mais on a très belles autoroutes.
Sauf qu'après quand vous avez des problèmes sociaux de mobilité des travailleurs qui sont exclus des centres-villes et qui doivent faire 45 minutes le matin pour aller travailler et que vous ne contrôlez pas l'outil tarifaire des péages, ben vous avez un vrai problème social.
Ouais. J'en profite, je fais un petit détour parce que vous êtes président de la commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables. Vous remettez un rapport, là, je crois, justement, dans 2-3 jours.
C'est ça.
Vous concluez quoi sur les énergies renouvelables? C'est que ça coûte très cher?
Alors,
ou que c'est indispensable, ou que c'est l'avenir de demain?
Le rapport est couvert, évidemment, par le secret, je dirais, mais il y a eu les auditions ont été publiques.
Les grandes lignes.
En tout cas, ce que j'en ai retenu, c'est qu'on vit une terrible escroquerie. C'est-à-dire qu'on prélève aux gens 57 milliards d'euros en leur disant c'est pour la planète. Il y en a 10 qui vont effectivement à ce qu'on appelle la transition écologique. Et quand vous mettez le nez dans la transition écologique, vous apercevez que ça ne produit aucun impact carbone. Voilà. Donc ça devrait révolter tous les Français qui nous regardent. On dépense 7 milliards d'euros par an pour faire des éoliennes. Et en réalité, vous déconstruisez des centrales nucléaires pour les remplacer par des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Vous n'avez aucun impact sur le CO2. Donc on se moque des gens. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a...
Et donc, le rapport, il va préconiser quoi?
Ça, c'est le rapporteur qui va proposer éventuellement des choses. Hein. Moi, j'attends d'avoir la vision du rapport faite par le rapporteur. Mais je pense notamment se concentrer davantage sur la transition écologique plutôt que la transition énergétique. C'est-à-dire plutôt que de dire notre ennemi c'est le nucléaire, dire notre ennemi c'est le CO2. Notre enjeu c'est surtout le réchauffement climatique. Ça sert à rien d'inviter Greta Thunberg au Parlement en poussant des cris d'orfraie en disant dans 10 ans la planète est foutue si en réalité vous ne mettez pas l'intégralité de vos moyens pour essayer d'enrayer le processus au niveau français.
Oui, mais à ce moment-là vous faites quoi? Parce que là on a appris la fermeture de Fessenheim, ça y est, elle est confirmée, enfin les deux étapes, premier réacteur, deuxième réacteur en 2020. Donc ça fait partie des engagements qui ont été pris. Est-ce que vous saluez ces engagements qui ont été pris?
Non, moi je pense que c'est de la poudre.
Et ça veut dire que vous êtes pro-nucléaire,
C'est pas être pro ou contre, c'est-à-dire lire les rapports du GIEC, vous disent que dans 80% des scénarios, il faut du nucléaire. Nous, c'est très simple. On a 20% du problème qui est réglé. On a 20% de notre énergie. C'est l'électricité, c'est décarboné. Notre problème, c'est les 80% carboné, c'est-à-dire votre voiture, votre moyen de chauffage. Où est-ce qu'on met l'argent? Sur l'électricité.
Ouais.
C'est très logique à comprendre. Moi, ce que je dis, c'est que les 7 ou 10 milliards d'euros, on devrait plutôt payer des chaudières de remplacement aux Français. On ferait des économies de pouvoir d'achat et des économies de CO2. Et puis ensuite, essayer effectivement d'encourager tous les types de locomotion. Il n'y a pas que l'électrique. Vous avez aussi, par exemple, l'hydrogène, vous avez le biogaz, vous avez toutes sortes de nouvelles technologies ou les biocarburants qu'il faut encourager à travers notamment les flottes captives, les ambulances, les taxis.
Ouais. Est-ce que vous, pro-nucléaire, Est-ce que vous pensez qu'EDF, par exemple, il faut réinvestir massivement dans EDF? On voit qu'il y a des gros problèmes. Enfin, il y a une perte de courbe d'expérience qui est quand même sidérante aujourd'hui.
Pendant 20 ans, en réalité, on a arrêté d'investir sur la filière nucléaire, ce qui fait qu'elle s'est dégradée au plan de la compétence. Oui. Et en plus, maintenant, on a un message politique qui dit le nucléaire, c'est terminé. Donc, on est en train de cisailler notre principale branche décarbonée. Donc, à mon avis, il faut garder le modèle d'EDF tel qu'il est aujourd'hui, arrêter de soutirer les plus-values d'EDF tirées du nucléaire qui l'empêchent d'être réinvesti dans l'outil nucléaire. On l'utilise aujourd'hui pour investir dans les autres énergies. Voilà, donc on a une fausse concurrence qui s'exerce d'ailleurs sur le marché de l'électricité, qui fait augmenter les prix. C'est pour ça qu'il y a eu une augmentation de l'électricité en mai dernier, donc c'est complètement incohérent. Et puis, effectivement, réinvestir sur la formation, parce que nous avons un vrai problème de perte de compétences.
Qu'est-ce qui pourra faire sortir la droite de l'ornière dans laquelle elle se trouve depuis quelques temps?
Premièrement, traiter sur le fond les nouveaux sujets qui se posent. Je pense à la dépendance, il y a l'écologie dont on a déjà parlé.
L'immigration,
ce sont des sujets plutôt anciens sur lesquels effectivement on doit revoir. Bon, deuxièmement, vous avez la question de la sincérité et l'envie de faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours, si vous voulez, ce problème à l'égard de la droite en disant « mais vous ne l'avez pas fait quand vous étiez aux affaires ». Je pense qu'une nouvelle génération aura plus de chances de convaincre les gens que la confiance peut se réinstaller. Et puis troisièmement, avoir une vision cohérente de la société. On doit sortir, des programmes. Vous savez, quel est votre programme? Moi, je crois qu'il faut arrêter d'avoir un programme avec des 50 ou 80...
Pas comme Emmanuel Macron, à ce moment-là, vous faites du Macron.
Non, mais avoir un programme, c'est bien. Mais quelle est la société qu'on nous vend? La société d'Emmanuel Macron, c'est une société d'individus isolés qui fait fortune sur son talent. Ça n'est pas une vision, je dirais, autour d'un projet collectif. C'est ce que je reproche.
Oui, absolument. C'est ce que vous écrivez, détaillé assez bien dans votre livre. Du reste, Emmanuel Macron, le faux prophète. Juste encore une question sur le plus politique. Il y a eu la convention des droites, avec Marion Maréchal Le Pen. Elle juge le Rassemblement National, pas suffisant pour gagner et considère que l'effondrement des aux élections européennes est une opportunité pour ancrer dans un avenir commun la droite et l'extrême droite.
Non.
Non.
Moi, j'ai pas du
tout. C'est la future candidate finalement des Républicains, c'est pas Marion Maréchal.
Non, mais elle a évidemment des gens qui l'apprécient. J'ai trouvé son discours très identitaire, très clivant. Pour le coup, s'attaquer à l'islamisme, s'attaquer à l'islam, c'est considérer qu'il y a 5 millions de nos compatriotes qui n'ont pas leur place dans ce pays. À mon avis, c'est ouvrir des fractures. Voilà, on doit aussi sortir d'ailleurs des diagnostics. C'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup de diagnostics. Moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver des solutions. Oui, il y a un problème de communautarisme, de ghettoisation. On n'est pas aveugle. On voit aussi les problèmes des femmes voilées dans les rues. Mais la question est, comment est-ce qu'on inverse ceci? C'est ça qui m'intéresse. Puis ensuite, moi, je n'ai pas envie, de faire alliance à l'extrême droite.
Au moins, ça le mérite d'être clair. Julien Aubert, pourquoi c'est le faux prophète Emmanuel Macron?
Parce qu'il y a eu dans son élection quelque chose de fulgurant. Vous savez, le prêcheur qui se met sur un tonneau.
Le christique, vous dites toujours.
Oui, il attire une foule et leur dit, ça y est, moi je sais où il faut aller, et il les amène avec lui. Et donc, c'est le peuple des marcheurs. Le problème, c'est qu'il est sincère sur son message. Malheureusement, à mon avis, il va dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'il n'a pas de projet collectif. Un projet collectif, le seul projet collectif, notamment contre les tribus et l'hyper-individualisme, c'est la nation. C'est pourquoi est-ce que nous sommes français? Pourquoi est-ce qu'on a envie? Quel est le pays que l'on veut construire dans ce siècle? C'est le seul projet qui devrait nous occuper, pas celui d'être de telle ou telle religion, confession ou groupe ethnique. Or, Emmanuel Macron, lui, d'abord veut dépasser la nation, il considère que c'est has-been. Il dit finalement, la nation c'est un peu comme une PME qui doit fusionner pour résister à la mondialisation. Mmh. Et de l'autre, il ne s'adresse qu'à certains individus. Il ne parle pas d'ailleurs tant du travail que du talent, en disant, finalement, vous les talentueux, rejoignez, accomplissez-vous économiquement et socialement. Et du coup, il n'a aucun discours à apporter à ceux qui ne sont pas concernés, en disant, écoute, il faut que tu deviennes plus mobile, plus dynamique, et puis je te fais une petite aumône de fin de mois, ça va te permettre de survivre en attendant de changer. Mmh. Et il ne comprend fondamentalement pas, enfin en tout cas moi je pense qu'il a mis beaucoup de temps à comprendre la crise des gilets jaunes.
Je disais, vous avez été son copain l'ENA, enfin justement
mon
vous
camarade.
Dites un camarade, parce que personne n'était ami vraiment d'Emmanuel Macron. Vous avez une description assez intéressante du personnage.
Oui, moi c'est que, alors d'abord il faut comprendre que j'ai pas fait ce livre comme un règlement de compte. C'est quelqu'un que je trouvais très charismatique quand on était à l'ENA, vraiment très
sympa. Et qui part d'une tribune que vous avez fait dans l'Opinion, le jour de son élection.
Oui, le jour de son élection, parce que malheureusement je lui prédisais, les gilets jaunes, en réalité, je lui disais la colère qu'incarne Marine Le Pen, tu l'as vaincu, mais si tu ne règles pas les problèmes de ce pays profond, ces problèmes reviendront sous une autre forme. Donc, j'ai pas été étonné quand j'ai vu les Gilets jaunes, mais parce que tout dans sa formation et dans son parcours fait que il ne peut pas comprendre ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Moi, j'ai eu la même formation que lui, je viens aussi de province, et quand je suis revenu en politique, enfin, quand je suis arrivé en politique
Marseille.
En 2012, oui, je suis né à Marseille, j'ai découvert cette colère sociale, cette colère politique, et cet abandon, ce sentiment d'abandon. Je crois qu'on ne réalise pas dans les métropoles à quel point une partie de ce pays a été abandonnée depuis 20 ans. Alors, évidemment, on y va en vacances, on trouve ça sympathique, un peu authentique, mais on ne se rend pas compte à l'année ce que c'est aujourd'hui que de vivre dans un territoire.
Justement, il y a un rapport qui a été fait, qui a été remis au Premier ministre, et je recevais par un député La République En Marche, sur comment faire pour faciliter l'implantation d'usines de PME dans des zones rurales. Vous êtes dans une zone rurale, la 5e circonscription du Vaucluse. Est-ce que vous n'arrivez pas à faire venir des industriels?
Non, on ne peut pas. Puisque moi, on me coupe le téléphone 15 jours parfois dans certains villages. Le téléphone fixe. Comment voulez-vous faire venir une entreprise dans ces conditions? On me ferme les services publics. On m'enlève des gendarmes. La justice, on veut me la délocaliser. Les impôts, on me les a enlevés. Donc, si vous voulez, quelle entreprise va venir dans un village où les services publics ferment, où il n'y a pas de cinéma, de distraction, en tout cas pas les mêmes, où en plus, désormais, il y a le prix du transport qui augmente avec l'augmentation de l'essence. Et puis, il y a un sentiment d'abandon et de vieillissement généralisé. Et donc, il faut faire revenir l'État, c'est l'aménagement du territoire qui est derrière. Oui. En fait, il faut restaurer le commissariat au plan et la DATAR.
Oui, c'est sans doute ça. Ce matin, Valérie Rabault, elle disait, donc députée, Tarn-et-Garonne, disait, moi, toutes les trésoreries ont fermé. C'est le cas chez vous? Oui. Me direz en même temps, Internet, vous voyez, a tous, vous aussi, votre smartphone.
Sauf que, premièrement, tout le monde dans ces territoires ruraux ne maîtrise pas Internet.
Oui.
Deuxièmement, pour avoir Internet, il faut la 4G, ce qui n'est pas notre cas. Et puis, troisièmement, on oublie qu'une société, c'est une société du liant. Le fait de voir un postier, le fait d'aller dans une perception, de rencontrer les gens, ça crée du liant. Cette société numérique est fabuleuse en termes d'efficacité, d'ailleurs c'est le maître mot. Mais on oublie principalement qu'une collectivité, c'est une collectivité d'hommes et de femmes. Et on devrait être très triste de réaliser que votre voisin peut mourir, vous avez des millions d'amis sur Facebook, votre voisin meurt et vous l'apprenez par la presse. Ça devrait nous interroger. Et c'est pour ça que ça n'est pas seulement une vision économique qu'il faut avoir, mais une vision humaine.
Oui, c'est sans doute ça aussi qui est important. Votre pronostic pour votre propre élection, Julien Aubert, 12-13 octobre, est-ce qu'il faut forcément être adoubé par Nicolas Sarkozy?
Non, moi je crois qu'il faut être adoubé par les adhérents. Mmh. Et puis vous savez ce que disait Marcel Pagnol.
Oui, j'adore votre phrase. Oui.
Tout le monde disait que c'était impossible et un jour un imbécile qui ne le savait pas est venu et il l'a fait.
Oui, en l'occurrence. Il y a combien de personnes qui vont voter?
Il va y avoir 130 000, donc on va avoir un taux de participation, voilà, à mon avis, de 50 000 personnes. Mais à force de dire que cette élection, que les Républicains sont morts ou que le scrutin est déjà plié d'avance, ça n'encourage pas les gens à participer. Mais quand on va voir les compagnons, les adhérents dans les circonscriptions, ils vous disent on a envie que ça change, on a envie de jeunes, on a envie de nouveaux visages, on n'est pas convaincu par l'offre actuelle, on va voter pour vous.
Les élections municipales, on peut imaginer que, je sais pas, vous pouviez vous rapprocher quoi, de La République En Marche ou au contraire plutôt
du Front
National?
Si je suis le président, c'est la clarté. Parce que c'est une question, vous savez, de croyance. Vous me dites, comment est-ce qu'on peut vous faire confiance? Eh bien, en disant ce qu'on fait et en faisant ce qu'on dit. Donc, si je suis élu président, il n'y aura pas d'alliance ni avec La République En Marche, ni avec le Front National. On gagne avec ses idées. Il vaut mieux gagner avec ses idées que perdre avec celles des autres.
Mais est-ce qu'il faut mieux perdre les élections municipales?
Il y a des défaites. Après, c'est la responsabilité de chaque maire. Mmh. En tout cas, pour un parti politique, il peut y avoir des défaites fondatrices. Et vous savez, il y a des gens qui ont force des fois dans l'histoire, qui ont absolument voulu être du côté des gagnants. Ils l'ont regretté quelques années plus tard.
Ouais. Merci beaucoup. Julien Aubert, donc Emmanuel Le Faux Prophète. Et c'est donc aux éditions du Rocher, élection le 12-13 octobre. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain matin, 8h15, avec celui qui est président de BPI France. Il investit dans les territoires, Nicolas Dufourcq. Et on se retrouve pour l'orage 12h13. Bonne journée.